Chapitre 4. Je m'engage. C'est alors que je résolus de tenter l'essai pour entrer dans l'armée, tant pour me soustraire aux importunités de la jeune héritière, qui devenait de jour en jour plus gênante, que pour mettre à exécution le projet depuis longtemps arrêté dans ma tête et toujours remis par crainte d'un refus. L'occasion était bonne. La moisson était terminée. On ne pouvait pas me reprocher de vouloir me soustraire aux rudes travaux de la récolte. Et puis on parlait beaucoup de la guerre, déjà déclarée entre les Russes et les Turcs, et à laquelle la France et l'Angleterre, nous disait le maire, allaient aussi prendre part. C'est vers ce temps-là qu'on avait posé le premier fil télégraphique entre Brest et Quimper. J'avais vu les ouvriers planter les poteaux et poser les fils. J'avais demandé au maire ce qu'on voulait faire avec ce fil-là. Le maire, qui était plus farceur que savant, répondit que c'était pour envoyer des lettres de Quimper à Brest et vice-versa, qu'on roulait la lettre et qu'on la fourrait dans le fil qui était creux, puis on soufflait et elle arrivait instantanément. Je savais bien que cela n'était pas vrai, puisque j'avais vu les ouvriers couper le fil. On parlait aussi du chemin de fer, et le maire, qui ne voulait jamais être pris au dépourvu, nous expliquait aussi, à sa manière, ce qu'était le chemin de fer. C'était un chemin étroit, juste la largeur d'une voiture, ferré au fond, des deux côtés, et couvert également en fer. Là-dedans, on mettait plusieurs voitures attachées les unes aux autres, dans lesquelles montaient les voyageurs. Derrière, on mettait une voiture plus grande, tout en fer, dans laquelle on allumait un grand feu. Alors toutes les voitures se sauvaient au galop, comme si elles avaient le feu au derrière. « Egis ma vigebet en tan en horreur. » Je fus obligé de croire à cela, comme au sermon du curé, puisque je ne pouvais pas démontrer le contraire. Néanmoins, ces questions-là me trottaient aussi dans la tête et contribuèrent pour leur part à me faire brusquer le mouvement. Puisqu'on avait besoin d'hommes pour la guerre et qu'on en prenait par force, je pensais qu'on devait bien prendre aussi les volontaires sans les regarder de trop près. Pour que personne ne sût rien avant d'être sûr de mon affaire, un jour, après la collation de midi, et pendant que les autres fumaient leurs pipes, je courus jusqu'à la place Saint-Corentin à Quimper. Là se trouvait toujours un vieux bonhomme attendant quelques commissions ou quelqu'un pour lui payer un verre de schnick, car il avait toujours soif. Il s'appelait Robic et était connu de tout le monde. C'était, comme il disait lui-même, un vieux de la vieille. Il était à Waterloo et avait vu mourir la garde. En arrivant sur la place, je vis mon Robic arc-bouté contre le coin de la cathédrale, qui était sa place ordinaire quand il n'était pas au débit d'en face. Je l'accoste vivement en lui demandant s'il n'avait pas soif, et sans attendre sa réponse, je saute dans le débit et je fais servir un demi-quart au vieux de la vieille et une chopine de cidre pour moi. Robic, après avoir dégusté son demi-quart d'un seul trait et fait claquer sa langue, me demande ce qu'il y avait de nouveau, que j'avais l'air si pressé. Je lui demande où il fallait aller pour voir si j'étais bon pour le service. « Bon pour le service ?» qu'il me dit. « Mais certainement que tu es bon pour le service. Tu veux t'engager ?»« Oui. Eh bien, viens avec moi, je vais te montrer. »« Bien sûr que tu es bon. C'est moi qui te le dis. On ne te fouillera même pas, tu vas voir. On a besoin d'hommes maintenant. Tu ne sais donc pas que nous avons la guerre ?» Tout cela était dit en marchant du côté de l'endroit où il voulait me conduire. Arrivé au bout de la rue, près du quai, il me dit « C'est ici ». Je levai la tête. Au-dessus de la porte, je pus lire « Bureau de recrutement ». Aussitôt, une espèce de tremblement me saisit. Mon cœur sautait à se rompre. Robic me regarda et me dit « N'aie pas peur, va. Tu n'as rien à craindre. » Ce n'était pas la peur, certes, qui me faisait cet effet. C'était toujours cette malheureuse et stupide timidité de laquelle je n'ai jamais pu me défaire complètement, que j'avais dû sucer avec le lait maternel et qui avait été fortifiée durant mes années de mendicité. Nous entrons. Je vis plusieurs militaires en train d'écrire et un officier, un capitaine, je pense, qui se promenait dans le bureau. Il vint vers nous et Robic lui dit quelques mots que je n'avais pas compris, étant préoccupé à faire taire mon cœur et à me raidir contre cette fatale timidité. J'aurais voulu voir ma figure dans une glace. Je craignais qu'elle ne fût trop pâle. Heureusement, on ne me laissa pas longtemps dans ma triste position. Robic, me prenant par le bras, me poussa devant lui vers un coin du bureau. De ce coup, je crois, si j'étais blanc auparavant, je devins tout rouge. L'officier était là qui me regardait des pieds à la tête. J'étais pieds nus. Il me prit les deux mains qu'il secoua un peu, puis me fit entrer sous la toise. À peine étais-je dessous, j'entendis l'officier prononcer ces mots qui faisaient autrefois tressaillir de malaise beaucoup de jeunes gens. « Bon pour le service !» En passant sous la toise, je sentis à peine ma tête toucher la mesure. Mais, après avoir entendu ces trois mots, je crois que je l'aurais poussé en l'air si on m'eût remis dessous, car je croyais que j'avais grandi de plusieurs centimètres. On me demanda mon nom, qu'un soldat inscrivit sur un registre. Puis on me dit d'aller tout de suite chercher mon extrait de naissance et un certificat de bonne vie et mœurs du maire de ma commune. En sortant, Robic me dit « Eh bien, mon petit, je t'avais pas dit que ce serait bientôt fait. Es-tu content maintenant ?»« Oui, je suis bien content. Viens boire encore un bon demi-quart que je cours vite chercher mes papiers, car je ne veux plus retourner au Carloche avant d'avoir fini. » Je courus d'abord à Gwengat chercher mon extrait de naissance, et ensuite j'allai à Ergué-Gabéric voir mon père et savoir ce qu'il en dirait. Il ne me dit pas grand-chose. « Peut-être tu fais bien d'aller maintenant. L'année prochaine, tu serais toujours obligé d'y aller. » Il vint avec moi chez le maire de la commune qui demeurait tout près. Celui-ci passait alors pour le plus savant de tous les paysans de la commune. Il me demanda si j'avais été m'assurer que j'étais bon pour le service. Sur mon affirmation, et quand je lui présentai mon extrait de naissance, il alla à son bureau en me disant « Je vais alors te donner le consentement de ton père et un certificat de bonne vie et mœurs. On ne t'a pas demandé ça ?»« Non, on m'a dit seulement de produire mon extrait et un certificat du maire de ma commune. »« Eh bien, c'est moi le maire de ta commune, puisque ton père demeure ici, et je sais les papiers qu'il te faut. » Je lui fis observer que j'étais aussi chez un maire. « Ça ne fait rien, va. Avec ces papiers-là, on ne te demandera pas autre chose. » Cela m'arrangeait bien si je pouvais passer ainsi, car j'aurais été embarrassé d'aller demander un certificat à mon maire et patron. Il était trop tard ce jour-là pour revenir à Quimper. Je restai logé chez mon père, dans ce triste logement et dans ce même lit qui me rappelèrent tant de misère. Ma mère pleura un peu et fit son possible pour réunir de quoi me faire des galettes pour la dernière fois. C'était la dernière fois, en effet. Je ne devais plus les revoir, ni l'un ni l'autre. Tous deux, après avoir mené une assez longue vie de misère, ont fini par en mourir, quelques années après mon départ. Le lendemain, après un dernier adieu, je les quittai, le cœur gros et les larmes aux yeux. En arrivant à Quimper, j'allai tout droit chez mon vieux Robic, en lui disant que j'avais tout ce qu'il fallait, et aussitôt nous nous dirigeâmes vers le recrutement. Après, toutefois, avoir lavé à mon vieil ami son gosier toujours crassé, comme il le disait. Cette fois encore, ce ne fut pas long. Aussitôt qu'on eut jeté un coup d'œil sur mes papiers, on me fit conduire à la mairie par un soldat, pour contracter mon engagement. Robic vint aussi pour servir de témoin. En traversant la place Saint-Corentin, je regardai partout pour voir si mon patron, qui se trouvait souvent de ce côté, n'y était pas. Par bonheur, il n'y était pas. À la mairie, on me demanda si j'étais content de contracter un engagement de 7 ans. Je répondis fortement « Oui ». « Vous ne savez pas signer ?» Je répondis « Non, quoique j'aurais bien pu mettre mon nom peut-être, tant bien que mal. » Quand ce fut fait, le soldat me dit de retourner au bureau de recrutement à 2 heures. Je fus exact. On me dit alors que j'étais versé au 37e de ligne, à Lorient, où je devais être rendu le 25 août, et nous étions le 21. On me donna ma feuille de route avec 3 francs pour mon voyage. C'était alors toute ma fortune, et je disais à Robic, qui m'accompagnait toujours, « Si maintenant Dagnon refuse de me donner mes gages, n'ayant pas fini mon année et étant parti de chez lui sans rien dire, je vais arriver au régiment sans un sou, ce qui ne sera sans doute pas bien agréable. »« Non, dit mon vieux, il te faudrait, pour bien arriver, au moins 50 ou 60 francs. Autrement, tu seras malheureux tout de suite en commençant. » Mais le maire ne peut pas te refuser ce que tu as gagné. Et puis tu as bien quelques hardes que tu peux vendre, car il est probable que tu n'en auras plus besoin. Oui, dis-je, j'ai un joli habillement tout neuf, une demi-douzaine de chemises, trois pantalons et deux blouses, une bonne paire de galoches que je n'ai portées que deux fois. Cours vite trouver le maire et explique-lui ton affaire, en lui montrant ta feuille de route. Après, tu ramasseras tes effets. Moi, je vais, en t'attendant, chercher quelqu'un pour les acheter. Et surtout, n'aie pas peur de parler. Songe que tu es soldat maintenant, et qu'un soldat ne doit jamais trembler que lorsqu'il aperçoit sa tête à 15 pas devant lui. Tout en écoutant les recommandations de mon vieux de la vieille, je filai vers Kerloche. Je n'avais pas de temps à perdre. Le soir approchait, et je devais me mettre en route le lendemain matin de bonne heure. En marchant vers la ferme, j'essayais de me donner un air crâne et fier, et je résolus de résister bravement à la lutte qui allait s'engager certainement entre le maire et son dernier domestique. Quand j'entrai, le maire était à lire son journal. En me voyant, il dit « Tiens, on te croyait perdu. On ne t'avait jamais vu faire des absences comme ça. » « Je ne suis pas encore perdu, monsieur le maire, mais voici une feuille de papier qui va peut-être bien me conduire à ma perte. » Et je lui jette ma feuille de route sur la table, en restant crânement devant lui, attendant qu'il eût fini de lire. « Ah oui, dit-il, quand il se fut assuré que j'étais bien engagé, tu te sauves comme ça de chez moi comme un voleur, sans rien dire, sans me consulter, moi ton maître et ton maire, tu sais que je ne te dois rien maintenant. » puisque tu ne restes pas pour finir ton année. Ça vous regarde, monsieur le maire. Je n'ai pas besoin d'argent, moi. Maintenant, je serai nourri et habillé par le gouvernement. Je vais vendre mes effets. Avec ce qu'on me donnera, j'espère avoir assez pour payer mon entrée au régiment. Du reste, je n'ai pas le temps de discuter. Je dois partir demain matin de très bonne heure. Et sans écouter davantage, j'allai faire un paquet de mes hardes, et je me sauvai sans plus dire un mot. Et descendit presque en courant vers la ville. J'étais prêt d'y entrer lorsque j'entendis une des bonnes, qui était seule à la maison pendant mon entretien avec le maire, crier après moi. Je m'arrêtai un instant. Quand elle fut près de moi, tout essoufflée, elle me dit que le maire serait dans une heure au café de la Liberté, sur la place Saint-Corentin, et qu'il me priait de m'y rendre, qu'il avait encore quelque chose de sérieux à me dire. Je répondis à la bonne que je n'y manquerais pas. Deux minutes après, j'étais sur la place, au moment même où Robic arrivait à ma rencontre, en me disant qu'il avait trouvé mon affaire. Il me conduisit dans la rue Villy, dans cette triste rue où j'avais trouvé mes premières misères, chez un tailleur de campagne. Celui-ci, après avoir examiné mes effets, m'en offrit 40 francs. Il valait bien le double, mais je n'avais pas le temps de discuter. J'acceptai son offre. Je pensais du reste que, puisque le maire me faisait appeler, c'est qu'il avait peut-être envie de me donner quelque chose. Je payai même encore à boire au tailleur et à mon vieux de la vieille. Puis je dis à celui-ci d'aller m'attendre dans son débit habituel, en attendant que j'allasse voir ce que monsieur le maire avait à me dire. En entrant au café de la Liberté, je fus saisi d'un éblouissement subit. Il y avait beaucoup de monde, tous des messieurs. Mais j'en voyais encore, sans doute, plus qu'il n'y en avait, car mon éblouissement me faisait voir double. Instinctivement, je tirai mon chapeau de la manière que je faisais quand je mendiais mon pain. Un homme à tablier blanc, une serviette sous le bras, vint à moi le bras tendu, et j'allais être mis à la porte, lorsque le maire, que dans mon ahurissement je n'avais pas remarqué, me saisit avant le garçon par le bras, et me conduisit à une table où il y avait un monsieur que je ne connaissais pas, mais qui, ayant été sans doute instruit de mon cas par le maire, me dit « Comme ça, jeune homme, vous allez faire la guerre. » « Je ne sais pas, monsieur, mais j'irai certainement de bon cœur si j'y suis appelé. » « C'est bien ça, mon petit. Je vois que vous allez faire un bon soldat. » On me servit quelque chose dont je ne me rappelle plus le nom, dans un grand verre, et le maire me dit « J'espère que nous n'allons pas nous quitter fâchés. Tu pouvais bien penser que je ne voulais pas te laisser partir sans rien te donner. Tiens, voilà non seulement ce que tu as gagné, mais toute ton année, 70 francs. Je voulus protester, mais le monsieur me dit, « Prenez toujours, vous n'aurez pas trop. D'abord, en arrivant, vous pourrez verser 40 francs à votre masse, ce qui est un bon point pour commencer. » Et puis vous aurez beaucoup de petites choses à acheter pour vous mettre à hauteur du premier coup. Croyez-moi, je suis un vieux soldat, moi aussi. et je connais le métier. Je dus ramasser les 70 francs. Jamais de ma vie je n'en avais tant vu. Je voulus alors aussi payer une tournée. On nous en servait une, mais on ne me laissa pas payer. « Conservez votre argent, me dit le monsieur. Vous trouverez bien à l'employer. Surtout, faites attention qu'on ne vous le vole pas. » Puis il me dit d'aller acheter une ceinture spéciale pour le mettre pendant mon voyage. Après avoir dit adieu et serré la main à monsieur le maire, ainsi que celle du monsieur, je sortis et j'allai tout joyeux trouver mon ami Robic, lequel, du reste, pour tuer le temps en m'attendant, avait déjà absorbé 2 ou 3 verres à ma santé et à mon compte. Nous bûmes encore chacun un verre. Puis je voulus donner 5 francs à Robic pour sa peine, mais il refusa. « Je veux bien boire un verre, dit-il, mais je n'accepte jamais d'argent pour rendre service à un ami. » Je lui dis que le maire m'avait donné 70 francs, beaucoup plus que je croyais, et qu'un monsieur, un ami du maire, m'avait dit d'acheter une ceinture pour les mettre, crainte de les perdre. Mais je vis bien alors que mon Robic avait plus que son compte. Je lui dis bonsoir en l'invitant à se trouver le lendemain matin de bonne heure sur la place. J'allais alors acheter une ceinture, puis je me dirigeais vers la rue des Réguères, sans savoir trop où aller passer la nuit. Car depuis qu'on m'avait dit de faire attention aux voleurs, j'étais devenu plus inquiet. Je vis enfin une enseigne, « Ici on vend à boire et à manger, loge à pied. » J'étais à pied, même pieds nus. Je ne voulais pas aller voyager avec des galoches qui étaient trop lourdes, et je ne voulais pas non plus acheter des souliers pour 2 jours. J'entrai dans la maison. Je tombai bien. Aussitôt entré, je reconnus la patronne. C'était une paysanne que j'avais bien connue à Ergué-Gabéric. Je fus bien reçu, et je n'avais rien à craindre pour mon argent, car on me donna une petite chambre pour moi tout seul. Pour le souper, je ne lui fis pas grand honneur. J'avais tant bu dans la journée que mon estomac ne pouvait rien recevoir. J'avais hâte aussi d'aller dans ma chambre. Je réglai mon compte tout de suite et dis à la patronne que je partirais de belle heure le lendemain matin. Une fois dans ma chambre, je m'empressai de déployer ma ceinture, et j'y plaçai mon argent, pièce par pièce, dans des petits compartiments séparés par une couture, afin que les pièces ne pussent se réunir sur un même point et former une bosse. Ceci fait, je posai ma ceinture sous ma chemise, sur la peau, puis je m'étendis sur le lit sans le défaire. Je ne dormis guère cette nuit-là, et quand je m'endormais un instant, il me venait des rêves épouvantables. Je me voyais poursuivi sur la route de Rospordin par des voleurs avec des pistolets et des cordes. À d'autres moments, je croyais entendre la porte s'ouvrir doucement, et je voyais entrer une femme et derrière elle un homme, un grand couteau à la main. Chaque fois que je me réveillais, je me levais sur mon séant en portant involontairement ma main à ma ceinture et fixant mes yeux tout autour de la chambre. Une fois même, j'allais voir si la porte était réellement bien fermée. J'entendais sonner les heures à la cathédrale. Aussitôt que j'entendis sonner les 4 heures, je me levai. Je pensais sortir sans réveiller personne, mais la porte était fermée et je fus obligé d'appeler. La bourgeoise descendit bientôt, en me disant que j'avais bien le temps, que les jours étaient longs, et comme je n'avais rien mangé la veille, elle me dit que je ferais bien de prendre quelque chose avant de partir. Elle me mit sur la table de la viande, du beurre et du pain. Tout en me servant, elle regardait mes pieds. « Je ne m'étonne pas, dit-elle, que je ne vous ai pas entendu descendre. Vous êtes pieds nus, et vous allez voyager comme ça ?»« Oui, vous savez bien, moi j'ai l'habitude de marcher plus souvent nu-pieds qu'avec des chaussures. »« N'importe, ça ne sera pas joli de vous voir arriver là-bas pieds nus. On se moquera de vous. J'ai là une vieille paire de souliers, prenez-la. Si vous ne pouvez pas marcher avec, vous les mettrez seulement pour entrer à la caserne. » L'idée n'était pas mauvaise. J'acceptai les souliers que je mis sous mon bras en remerciant la bourgeoise, et je courus vers la place Saint-Corentin pour voir si Robic y était. Il n'y avait personne. Je voulus entrer dans l'église, mais la porte était fermée. Alors je m'agenouillai dans le porche et j'adressai de tout mon cœur, avec une grande ferveur, 2 paters et 2 ave, non à Saint-Corentin, mais à Notre-Dame de Kerdévote, laquelle m'avait déjà sauvé la vie une fois, à ce qu'assurait ma vieille institutrice, qui était morte depuis quelques années. En sortant, je regardai encore autour de la place, je ne vis personne. Robic n'avait pas pu s'éveiller, sans doute, ayant un peu trop bu la veille. Alors je pris par le pont de l'évêché et la rue Neuve pour gagner la route de Rospordun.